La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Économie familiale.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
On connaît maintenant l'identité de celle qui dirigera l'Agence Santé Québec. Il s'agit de Geneviève Biron. Elle provient du privé. Elle sera épaulée dans ses fonctions par Frédéric Habergel, celui qui était PDG du CHUM depuis février 2023. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Comment tu entrevois cette nomination-là?
Ben, c'est clair. En tout cas, moi, je retiens deux éléments qu'on connaissait déjà, mais qui sont confirmés. Le gouvernement Legault tenait absolument à avoir une PDG qui venait du milieu privé, ouais. Du secteur privé. On voulait quelqu'un qui arrivait avec un nouveau regard parce qu'on ne voulait pas que, dès sa naissance, Santé Québec soit conçu et érigé autour des bases traditionnelles de gestion des fonctionnaires à Québec. Et c'est la raison pour laquelle on est allé chercher quelqu'un avec une feuille de route comme celle de Mme Biron. Mais en même temps, on est conscient que ce PDG-là, ça prend quelqu'un qui connaît la machine, tu sais. Ça prend quelqu'un qui connaît, ça prend une mémoire institutionnelle, je crois, à la tête de l'organisme. Et c'est la raison pour laquelle elle a choisi quelqu'un comme Frédéric Habergel. Et donc, moi, c'est ainsi que je vois le tandem. C'est sûr qu'on voit déjà les levées de boucliers, des syndicats, de toute la machine habituelle, tu sais, de ce réseau qui s'auto-nourrit dans l'immobilisme perpétuel.
Ah ouais, eux, ils disent, ça y est, le privé est rendu en santé. C'est le privé qui mène en santé maintenant.
Ben, le privé allait toujours mener en santé à partir du moment où on avait compris que M. Dubé cherchait quelqu'un qui était issu du secteur privé. Entre toi et moi, est-ce que un vice-président de la Caisse de dépôt qui a passé sa carrière à gérer des actifs aurait moins incarné le privé que quelqu'un qui a fait carrière dans une entreprise médicale privée, comme Groupe Biron, là, que tout le monde connaît, là, en vérité, au Québec, là, parce que c'est parmi les plus gros fournisseurs au privé de tests, etc., d'imagerie. Je suis pas certaine. Puis surtout, la place du privé en santé, tu sais, quand on essaie de différencier entre c'est quoi le rôle de la PDG de Santé Québec versus le rôle du ministre de la Santé, là, décider de la place du privé en santé, ça relève d'orientation politique, là. C'est pas un haut fonctionnaire de l'État qui va dire « Bon, ben savez-vous, moi, maintenant, tout va se faire au privé, on va fonctionner. » Je veux dire, il y a des orientations politiques qui relèvent de la classe politique, là. Et objectivement, là, toi et moi, le gouvernement Legault n'a pas besoin de Geneviève Biron pour décider qu'il veut faire beaucoup de place au privé en santé, là. Je veux dire, il a vu dans sa promesse électorale de construire 2 mini-hôpitaux privés. Il sous-traite un nombre incalculable de chirurgies au privé. Il laisse allègrement les médecins du système public faire des allers-retours entre le privé et le public, alors que objectivement, ce serait immensément facile de fermer la porte à cette espèce de yo-yo professionnel des médecins. Il n'y a pas besoin de Mme Biron pour décider qu'il a envie de faire une grande place au privé, là.
Mais Emmanuel, lorsque je l'entendais dire, elle était quand même prudente là, dans ses réponses, là. Mais lorsqu'elle a dit, tu sais, bon, veut mettre à profit son expérience pour améliorer l'accès, améliorer le service à la clientèle, ça fera pas de tort, là.
Ben, j'espère. Je sais, imagine aller t'acheter un sofa dans un magasin meuble où t'es pas capable d'ouvrir la porte. Je veux dire, il y a beau vendre les plus beaux sectionnels de l'humanité au meilleur rapport qualité-prix, si t'es pas capable d'ouvrir la porte, puis qu'à chaque fois, puis que pour t'acheter ton sofa, faut que tu fasses la file pendant 3 jours, comme quand on avait 14 ans, puis on s'achetait des billets pour YouTube. Toi et moi, les services à la clientèle, c'est un peu, c'est le nerf de la guerre de tout ce qui ne va pas dans notre réseau de la santé. Parce qu'on s'entend, on a des super médecins. Une fois que tu es rentré, en général, plus c'est grave, meilleurs sont tes soins.
C'est le avant le problème.
C'est le avant le problème, puis c'est les petits bobos le problème. C'est les petits bobos qui deviennent grands qui sont les très gros problèmes. Alors, moi, d'avoir quelqu'un qui essaie de replacer cette idée-là au cœur des services, ben comme patient, on ne peut que s'en réjouir. Elle utilise une expression du secteur privé qui s'appelle secteur service à la clientèle. Entre ça puis l'expérience patient, ben ça revient pas mal au même là. Alors mais bon, est-ce qu'elle va réussir? C'est la question que tout le monde se pose, on s'entend. Moi, ce que j'entends et ce qu'on voit, ce que j'ai remarqué dans les entrevues, puisqu'elle a commencé, là, ils sont dans une tournée médiatique aujourd'hui à donner des entrevues, la réputation qu'elle a, c'est d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Puis c'est assez drôle, tu sais, des grosses femmes de carrière qui ont des grosses jobs puis beaucoup d'autorité, ils ont souvent la voix et le ton qui vient avec, hein. On peut penser à Sophie Brochu, là, tu sais, quand elle donnait des points de presse, c'était catégorique, elle parlait comme ça. Madame Biron, elle a une voix toute douce, tu sais, toute comme, elle arrive pas avec ses gros sabots, mais quand elle dit, ben, s'il faut que ça change, ça va changer. Puis si le monde sont pas contents, ben, ils seront pas contents. Il y a comme un côté, qu'elle va s'attaquer à cette machine-là. Et que c'est son défi en vérité, c'est de déconstruire les nœuds qui paralysent le réseau de la santé. Puis moi, l'exemple le plus criant de ça qu'on ait entendu dans les dernières semaines, c'est cette histoire des 400 millions pour le rattrapage en chirurgie.
Oui, l'argent est sur la table, on s'en sert pas.
Non mais c'est fou raide là. Puis pourquoi on s'en sert pas? Mais parce que c'est pas toutes les PDG qui ont vraiment cru, puis qui ont vraiment... L'information ne s'est pas rendue à la base. Non, mais peux-tu t'imaginer, toi?
Donc, pour
t'es PDG d'une compagnie, puis là, tu reçois un gros, gros chèque, puis là, ta priorité, c'est pas de faire une réunion avec tout le monde en dessous, puis de faire un plan d'action, puis de s'assurer que ça se rende jusqu'en bas. Ah non, mais tu comprends, nana. C'est comme si dans ce réseau-là, chacun pense que c'est lui le ministre de la Santé. Puis c'est lui qui va décider. Alors, si elle réussit juste à régler ce problème-là, on va régler le rattrapage en chirurgie, il faut quand même le faire. Tu sais, c'est pas sorcier, là. Ça fait 20 ans qu'il y a des rapports, là. Ça dépend, là, qui sont écrits, là. Donc, toutes les solutions, on les connaît. Le problème, c'est que ça prend une équipe, comme un SWAT team, là. Ou une équipe de Marines, là. Qui débarquent puis qui décident que un par un ils vont s'y attaquer, c'est ça son mandat. Moi j'ai trouvé très prudent de sa part de pas se donner d'échéancier. Son échéancier en vérité c'est le fait qu'elle-même a demandé un mandat de 3 ans plutôt qu'un mandat de 5 ans qui était la description de poste originale.
Ouais, mais c'est clair que nous on veut des résultats que ce soit sur les listes en chirurgie, les listes d'attente quand on est à l'urgence.
Je vais t'avouer hier oui. Avant le la conférence de presse, je suis allée voir le tableau de bord. Le tableau de bord.
Ah ouais, on aime ça, les chiffres.
Ils disent la santé.
Non, mais. Il clignotait-tu? Ça te disait quoi?
Mais tu serais surpris que les indicateurs, ils sont ouverts. Il y en a des progrès en termes de temps d'attente, en termes de temps de prise en charge, en termes le temps supplémentaire qui descend, le nombre de personnes réembauchées dans le réseau. Tu sais, il y a 8000 personnes au net de réembauchées dans le réseau dans la dernière année. Le problème, c'est qu'on est aussi tellement dans un vortex où ça va mal que cette idée que petit à petit, les choses changent, peut-être qu'on le perd de vue aussi. Parce que entre toi et moi, attendre à l'urgence 22 heures, c'est aussi désagréable que d'attendre à l'urgence 21 heures. Mais il y a quand même une heure qui a été gagnée, tu sais. Puis tu vas pas te rendre à un temps d'attente normal d'un coup. Et c'est ça, je pense, tout le défi du gouvernement et tout le défi de cette nouvelle équipe à Santé Québec, c'est de montrer les petits pas qui vont finir par faire une différence parce que la population est vraiment profondément tannée et impatiente en ce moment. Mais malheureusement, on verra pas tout d'un coup une immense amélioration. Tu sais, ça va être petit à petit que ça va arriver.
Parmi les questions qui étaient soulevées, parce que ça, c'est toujours ça. Quand t'amènes une candidature de qualité, cette personne-là a un passé. Bon, là, dans son cas, elle demeure propriétaire de son fonds de capital à risque. Elle va, puis là, c'est une expression qu'on avait reprise, mais tu sais, devoir mettre un mur de Chine pour qu'elle ne discute pas de ses dossiers avec son mari qui est avocat en droit médical. Sa sœur dirige toujours le groupe Biron. Comment tu vois ça?
Ben, c'est le péril d'avoir des gens qui ont un passé. Je veux dire, il y a des responsables au sein de la haute fonction publique et de l'État dont c'est le devoir de mettre en place ces murailles de Chine, ces mécanismes-là, ces fiducies sans droit de regard et de s'assurer qu'ils sont bien structurés et bien érigés. Mais en même temps, c'est quoi? Et faut penser que Mme Biron, son but, c'est pas de déconner, de se mettre à parler avec sa sœur au souper, que ça finisse par se savoir, puis de détruire sa carrière qu'elle a mis 30 ans à bâtir.
Non, je comprends.
Il y a comme un minimum de bonne foi. Mais c'est quoi l'alternative? C'est de dire à des gens, c'est sûr que c'est imparfait, puis qu'il y a un petit malaise, puis un doute, puis tu sais. Mais c'est quoi l'alternative? C'est de dire que si après une grande carrière dans le secteur privé, tu veux aller servir l'État, la seule chose à faire, c'est de t'appauvrir. Ben, les gens, ils feront pas. Je veux dire, c'est pas rentrer au monastère, aller servir l'État, là. Alors, il faut être capable de vivre avec ça. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où tu forces ces gens-là à vendre leurs actifs, à renoncer à tout ce qu'ils ont bâti, ben là, tu envoies un signal très, très, très équivoque. C'est déjà difficile de recruter des gens pour aller servir dans ces grands postes-là, puis d'aller chercher des gens qui ne sont pas issus de la machine, donc qui sont capables d'amener un nouveau regard, une nouvelle façon de faire. Mais si en plus tu leur demandes de faire des sacrifices incommensurables en termes de richesse ou d'avoir financier ou quoi que ce soit, ben là, c'est complet, c'est pas crédible, là. On va s'en aller en Russie communiste, là, tant qu'à y être, là.
Emmanuel, il va y avoir une demande d'injonction qui va être déposée devant le tribunal là, concernant le campement pro-palestinien à McGill. Un campement qui a triplé de taille hein, depuis la fin de semaine, puis là, ils sont barricadés.
Mais ce ne sont que des étudiants, hein.
Ah oui, semble-t-il.
C'est purement spontané.
Oui.
C'est des étudiants en sociologie qui ont les moyens de louer des clôtures de cette taille-là, de mettre en place toute la logistique qui leur permet de vivre en autarcie derrière leur clôture.
Ah, les journalistes sont pas les bienvenus, hein? T'as vu? Yves Poirier s'est fait recevoir.
Pourquoi les journalistes ne sont pas les bienvenus? Parce que le message qu'on veut projeter au monde, c'est un message humanitaire, hein? C'est qu'on s'indigne contre le sort absolument horrible qui est réservé aux Gazaouis, les enfants qui meurent, les gens qui sont dans la famine, etc. Et donc, il y a que c'est vraiment un mouvement organique de défense des droits de la personne et de ce peuple palestinien qui est opprimé par la guerre et par les politiques guerrières de Benjamin Netanyahou. Alors, ça, c'est tellement facile parce que c'est ce message-là qui a permis cette mobilisation-là hallucinante d'un. Mais quand on va dans le détail, va sur Internet, va regarder, ça prend beaucoup d'efforts pour le trouver. Mais je te donne un exemple. Hier, il y en a une étudiante qui parlait à mon collègue Yves Poirier, qui lui a dit, moi, j'ai rien vu d'antisémite ici. Nous sommes anti-sionistes. Madame, monsieur, madame, tout le monde a dit, OK, ils sont juste antisionistes. C'est pas grave. Mais va sur Internet. C'est quoi être antisioniste? C'est s'opposer au droit d'exister de l'État d'Israël. C'est pacifique, ça, comme message? C'est dans le contexte actuel, c'est constructif. Alors, si c'est ça leur message, c'est qu'ils sont contre le droit d'exister d'Israël. Puis ils vont dire non, on n'est pas antisémite, c'est pas vrai qu'il y a eu de l'intimidation. Puis, il y a des gens qui m'ont envoyé vraiment facilement hier là des vidéos où il y a des militants enturbanés, le visage masqué, hein, parce qu'il faudrait surtout pas qu'ils se fassent arrêter, il faudrait surtout pas qu'ils se fassent foutre dehors de l'école, il faudrait surtout pas qu'en se faisant arrêter, ils perdent leur visa. Ils sont en train de crier à des étudiants « Go back to Europe ».
Wow.
C'est pas antisémite, ça? De dire à des étudiants « retourne en Europe », puis qu'ils chantent des chansons qui crient « Tous les sionistes sont des terroristes ».
Emmanuel...
On a commencé à sérieusement s'éloigner du message humanitaire pour contre la famine
et
l'injustice que subissent les Gazaouis sous les bombardements. Là.
Mais Emmanuel, est-ce qu'il faut qu'on craigne des dérapages? Moi, j'entendais les propos de certaines personnes là, qui n'ont pas l'intention de partir du tout, peu importe ce qui va arriver, peu importe l'injonction.
Mais quand les gens veulent la révolution, quand les gens veulent l'affrontement et veulent la révolution... tu vas avoir un dérapage. C'est un peu inévitable. Regarde ce qui arrive à Columbia en ce moment.
Puis, Sciences Po.
Moi, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'objectivement, le mouvement qu'on voit ici sur nos campus s'inspire et utilise les mêmes méthodes. Puis, c'est le même réseau qui a des antennes différentes. Mais ça fait 3 semaines que l'Université Concordia essaie de négocier avec ces groupes-là pour qu'ils quittent. Pour essayer de communiquer, ils ont placardé, tu sais, ils ont envoyé des communiqués, ils ont fait des tractations, ça fait des dizaines de semaines que ça dure. Puis après ça, sur les affiches et les tracts qui ont été communiqués par l'université pour essayer de diffuser c'est quoi le, tu sais, où en sont les négos avec ces jeunes-là, il est écrit « Columbia will burn ».
C'est très pacifique,
c'est,
ça aussi.
Mettre le feu à l'Université Columbia, tu peux pas gagner, tu sais. Alors, je veux dire, en France, puis tu me diras que c'est pas un modèle parce qu'ils ont une tolérance à ce genre de manifestation-là qui a un seuil beaucoup plus bas que nous, mais pour des raisons historiques évidentes, parce que la France a sa propre, son héritage de la collaboration et de la Deuxième Guerre mondiale, là, qui amène à un niveau de vigilance accru. Mais le premier ministre Macron a dit à l'Université Sciences Po, regardez, là, vous les faites partir ou j'envoie la police. Puis la responsable de toute la région a dit à Sciences Po et à la Sorbonne, je suspends votre financement jusqu'à ce que ça soit réglé, arrangez-vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Sciences Po? Ils ont réussi à négocier avec les étudiants. Ils ont dit, regardez, vous avez le choix, c'est la police. Puis la police en France, on s'entend, la police anti-émeute en France, c'est pas la police anti-émeute. Où on organise une journée de débat, mais selon le cadre suivant. Il n'y a pas du Jourdain à la mer, là. La base du débat, c'est qu'Israël a le droit d'exister. Et que les Juifs ne sont pas des nazis. Alors, on a établi des règles, puis est-ce que tu sais quoi? Les étudiants de Sciences Po, ils ont dit oui. Ça, c'est constructif. Parce que ça amène à avoir un débat éclairé sur des vraies bases qui forcent la nuance, puis où t'es pas dans des généralités que les sionistes sont des terroristes, puis qu'à répéter des slogans qui en appellent à la fin du droit d'exister de l'État d'Israël.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Au revoir.